Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui va vous soumettre ce soir une question insolite. Les arbres ont-ils des droits ? Et pour tenter d'y répondre, eh bien, je bénéficierai des lumières de Catherine Larère qui vient de signer la préface d'un article extrêmement célèbre, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» de Christopher Stone. Et c'est au passager clandestin Catherine Larère qui est l'auteur avec Raphaël Larère d'un ouvrage « Penser et agir avec la nature », une enquête philosophique, et c'est à la Découverte. Bonsoir Catherine Larère.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous avez mis fin à une longue attente pour le public français en écrivant la préface d'un livre, d'un article en réalité de Christopher Stone, qui est un article événement, qui a été publié en 1972. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de cet article, Catherine Larère ?
Alors, donc l'article est publié en 1972. Par Christopher Stone, qui est professeur de droit dans une université californienne, et il est publié à l'occasion d'une histoire qui se passe où d'un procès même, puisque
ils sont déjà en procès.
Oui, la société Walt Disney avait qui fait pas seulement des films, avait décidé de faire une station de sport d'hiver dans une vallée californienne qui est très célèbre pour ses séquoias, pour ses redwoods. Et donc, ça a entraîné des destructions diverses. Et le Sierra Club, qui est la plus ancienne ONG de protection de la nature américaine, très prestigieuse, très puissante, et également très liée à la Californie, avait attaqué Walt Disney en justice au motif que ça portait atteinte à ses intérêts de protectrice de la nature. Le Sierra Club est débouté au motif que ils n'ont pas d'intérêt direct, qui ne sont pas atteints de façon directe.
D'intérêt pour agir, qu'ils disent en anglais « standing ».
Oui, et qu'ils ne sont pas lésés dans l'histoire, donc il n'y a pas de raison de leur donner raison. Donc, et comme ça se passe aux États-Unis, l'affaire va en appel jusqu'à la Cour de justice, la plus haute Cour suprême. Et c'est dans l'intervalle entre le moment où l'appel a été fait et il va être jugé, que Christopher Stone publie son article, qui en tire son titre, « Should trees have standing ?»« Est-ce que les arbres pourraient pouvoir plaider ?» C'est la traduction qui a été choisie. C'est les arbres, c'est les séquoias atteints. Et donc, le raisonnement de Stone est simple. Si on a débouté le Sierra Club parce que comme association humaine, ses intérêts n'étaient pas lésés, eux, les arbres, sont directement atteints. Et donc, si les arbres peuvent être représentés en justice, à ce moment-là, ils pourront, par le biais de leurs représentants, par la voix de leurs représentants qui plaidera en justice, qu'il y a un dommage qui leur est fait, et donc on pourra ou non leur rendre justice.
Et ils publient ça alors que les juges de la Cour suprême vont rendre leur décision.
Alors, tout à fait. Et ce qui se passe, c'est qu'ils publient dans une revue de droit californienne, et qu'un des juges de la Cour suprême, le juge Douglas, doit lire les épreuves du numéro suivant parce qu'il est intervenu dans le dossier du numéro.
Donc c'est une lecture obligatoire pour le juge.
Il faut qu'il le lise. Et du coup, il lit l'article de Stone, qui ne fait pas partie du dossier, mais qui est dans l'ensemble des numéros et dans les épreuves. Il lit l'article et il est convaincu par les arguments. Alors, à la Cour suprême, la plainte du Sierra Club ne va pas être reçue, mais comme ça se fait, le juge Douglas, celui qui avait lu l'article, fait une opinion dissidente, et dans cette opinion dissidente, il reprend et même amplifie les arguments de Stone. C'est ça. Et donc, l'article va avoir un retentissement extraordinaire aux États-Unis et hors des États-Unis. Alors, pour terminer l'histoire de Walt Disney, Walt Disney va quand même renoncer à faire sa station de sport d'hiver parce que ça a tellement retardé les travaux. De guerre lasse, ils abandonnent. Et très peu de temps après, la vallée en question, cette vallée au Sequoia, est incluse dans un espace naturel protégé et donc on ne peut plus y avoir de station de sport d'hiver.
Ce qui en soi est intéressant, parce que ça montre que c'est la politique qui a eu le dernier mot, et c'est que finalement, ça n'a pas prospéré en justice. En même temps, politiquement, ça fait quand même beaucoup de bruit, ça a beaucoup agité les juristes, et au-delà des juristes. Et donc, finalement, il a gagné. De facto, ils ont gagné. Mais alors, Catherine Larrère, quelle était l'argumentation? Ça, c'est très intéressant. Quel était le raisonnement juridique emprunté par Stone? Et là, il a véritablement marqué une rupture.
Alors, le raisonnement juridique de Stone était en fait un raisonnement de dire ce qui s'est passé quelque part peut se passer ailleurs. Et donc, il part de l'extension des droits humains au 19e et au 20e siècle. On est passé des droits de l'homme en général aux droits des femmes, aux droits des noirs, etc. Et il dit, mais quand on a commencé à parler de ça, c'était impensable qu'on donne des droits aux femmes ou qu'on donne des droits aux noirs. Donc, si c'est possible à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas les droits? Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas aussi des droits aux arbres, alors aux arbres ou aux rivières fleurs, oui. ou à des vallées? Enfin, bon, c'est pas spécifiquement les arbres. Et ce qui a paru étrange, impossible à faire, est devenu possible. Donc, ce qui nous paraît impossible aujourd'hui pourrait devenir possible. Alors, quel est l'argument? C'est finalement un artifice technique. Il suffit de trouver quelqu'un qui représente. Donc, il faut faire une personnalité juridique.
Ah oui, mais ça
va. Et on lui reconnaît des droits.
Oui, mais ça, alors à mon avis, ça va beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, vous commencez votre préface en remarquant que au cours de l'année 2017, on a vu un certain nombre de parlements notamment comme le parlement néo-zélandais ou la haute cour de l'État himalayen, qui ont décrété des fleuves comme étant des véritables sujets de droit, pas sujets à protection, sujets de droit.
Sujets de droit.
Et on pourrait continuer avec une déclaration des gouvernements équatoriens qui reconnaît alors une personnalité juridique, c'est moins clair, à la Pachamama, à la terre-mère. Alors donc c'est une question qui est fondamentale pour les juristes, c'est savoir est-ce que les arbres sont des sujets à protection ou bien alors est-ce que ce sont de véritables sujets de droit. Et là-dessus, Christopher Stone est tout à fait tranchant. Il est tranchant, puis il a un raisonnement qui est typiquement américain, c'est-à-dire que j'ai lu quelque part, je crois que c'est sous votre plume, l'attention des étudiants commençait à baisser, faire quelque chose pour intéresser les étudiants.
Voilà, ça c'est typiquement fin de cours américain.
Fin de cours américain, ouais. Ce qui montre, entre parenthèses, la conscience professionnelle des profs de droit et la méthode socratique, il faut qu'on discute, il faut qu'il se passe des choses dans le cours. Bon, alors, il invente ça. Mais, sauf que c'est pris au sérieux, Catherine Larrère, c'est pris au sérieux, et en étendant le raisonnement qui a été fait pour les femmes, les noirs, les indiens, on pourrait continuer, des groupes sociaux minoritaires. Quand on passe aux arbres, aux fleuves, on a franchi la barrière des espèces.
La barrière des espèces, mais même on a franchi la barrière des êtres animés.
Exactement.
Au sens aristotélicien du terme. C'est-à-dire qu'on est dans des végétaux.
C'est
donc
ça.
On est à peu près aussi loin qu'on peut être.
Exactement.
Alors, ce que Stone passe son temps à dire, mais ceux qui l'interprètent ne vont pas réagir comme ça, c'est de dire, mais je ne dis rien sur l'essence et la substance d'un arbre. Hein. Alors moi, je ne suis pas juriste, hein, mais je dirais, il est positiviste juridique, en ce sens qu'il dit, un droit, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce qui est constitué comme droit. Ça ne suppose pas une existence antérieure qui ferait que je reconnais une âme aux arbres ou je reconnais quelque chose aux arbres qui serait commun ou continu avec l'humanité. Simplement, je constitue un sujet de droit, mais c'est finalement un être artificiel qui n'existe pas en dehors des droits qu'on lui reconnaît.
Sauf, alors c'est une perspective qui est extrêmement nominaliste, extrêmement...
Totalement nominaliste.
Extrêmement positiviste, mais elle a des effets. Alors, moi, je vois deux objections que je soulève. La première, c'est que le droit repose sur des fictions, mais les fictions ne sont jamais totalement coupées de la réalité. Ce sont des fictions qui sont c'est une méthode, c'est une manière de symboliser les apories du monde réel. Donc, ça, c'est une première dimension. Puis, deuxièmement, ces fictions, elles doivent être cohérentes entre elles, elles doivent constituer un univers qui conceptuellement soit cohérent, et elles ont des effets les unes sur les autres. Et là, je vois...
C'est ce qu'on appelle l'ordre juridique, non?
Exactement,
c'est ça.
Ce qu'on appelle l'ordre juridique.
C'est ce que m'ont dit les juristes quand
exactement.
J'ai présenté le...
Et j'ai vu que mon regretté ami Yann Thomas, d'ailleurs, a été extrêmement critique, ouais. Et comme François Host, et donc voilà. Alors, que répondez-vous? Que répondez-vous, non pas sur le premier argument des fictions juridiques, c'est une question un peu plus pour les juristes, mais qu'est-ce que vous répondez à la seconde objection, c'est-à-dire il y a quand même des obstacles de fond qui interdisent de faire rentrer un arbre, et d'ailleurs un animal, mais parlons des arbres pour l'instant, dans les catégories des sujets de droit, Catherine Larrère. Alors, je vais commencer par exemple par un premier...
Vous choquerait par exemple?
Ce qui me choque, c'est qu'un sujet de droit, c'est un ensemble de droits et de devoirs. C'est un sujet de droit doit pouvoir, à un moment... de son existence, exprimer une volonté. Depuis la loi des 12 tables, il n'est pas possible de condamner un dément. C'est très très ancien et on condamne pas un dément parce qu'il n'a plus sa volonté.
On condamne pas un dément, mais on défend ses droits.
Tout à fait, on défend ses droits et il est sujet
ou
à protection.
Un bébé, ou
tout
un...
à fait, oui. Tout à fait. Alors ça rappellera une autre argumentation. Mais sur la question de un sujet de droit, c'est une association indissociable, si je puis m'exprimer ainsi, entre des devoirs et des droits, une volonté. Le sujet de droit est à la fois la condition, le moyen et la finalité de l'ordre juridique. Il est tout cela. Or, un arbre, je vois très bien en quoi il est sujet à protection. Pour le reformuler autrement, les sujets de droit ont des droits et des devoirs. Il y a des sujets de droit qui sont uniquement sujets à protection. C'est l'infance, l'enfant qui ne parle pas, c'est le fou, c'est l'étranger absolu avec lequel je n'ai aucune norme de communication, etc. Bon. Puis, il y a les sujets de protection que sont certains animaux domestiques, que sont la nature, alors là, que sont beaucoup d'objets et d'êtres inanimés. Alors, est-ce qu'on ne risque pas de flétrir, d'affecter, d'affaiblir la catégorie de sujet droit à un moment où dans le monde, entre parenthèses, on a tellement de difficultés à faire respecter la dignité humaine?
Bon, alors, il y a l'argument, on retrouve les mêmes arguments sur le plan éthique et sur le plan juridique. Il y a l'argument qui est dit des cas marginaux que vous avez cités, c'est-à-dire les enfants, infants qui ne parlent pas, les déments, ceux qui sont réduits à l'état de légumes, disons.
Tout à fait, on se comprend. Les auditeurs auront compris, bien sûr.
Et ceux-là, ils ont pas de devoir,
non,
à proprement parler.
Non, parce qu'il ne peut pas les exercer, bien
donc,
sûr.
Donc, si ça vaut pour ces cas marginaux-là, pourquoi est-ce que ça ne vaudrait pas pour des entités naturelles qui, par ailleurs, sont beaucoup plus actives? Ça a beaucoup valu pour les animaux.
Bien sûr. Alors, bien
qui
sûr.
Sont, beaux, si vous voulez, un chimpanzé à qui on reconnaît pas les droits qu'on reconnaît à un bébé humain vagissant. Et pourtant, plus actif, plus même susceptible d'avoir des devoirs. Donc, le problème, c'est, étant donné que votre définition du « on ne peut être sujet de droit que si on a des devoirs », c'est-à-dire si on peut être responsable, mais elle n'est même pas coextensive à l'espèce humaine. Or, on la reconnaît à tous les humains.
Alors, ma réponse, Catherine Larrère, serait que il me semble, je parle sous votre contrôle, c'est le cas de le dire, que depuis Rousseau, dans la modernité, constitue l'humanité ce qui est identifiable comme un autre moi-même. Et c'est la pitié chez Rousseau, c'est...
Excusez-moi de vous interrompre, Antoine Garapon, mais pour Rousseau, la pitié ne s'arrête pas à la barrière d'espèce.
J'avais raison de parler sous notre contrôle.
Il le dit bien dans le discours sur la lune de l'égalité. Les animaux, je sais plus ce qu'il cite, le cheval ou enfin, ne piétinent pas un humain à terre. Donc il y a une pitié et il y a une pitié des humains vers les animaux. Alors, mais si ça, vous prenez tout le tout ce que fait L214 actuellement. Mais c'est ça. S'il n'y avait pas de pitié, il n'y aurait pas
Alors, je vais le reformuler différemment, mais je pense que c'est le même argument. Lorsque Myriam Revaud-Allonne dit ce qui est finalement la signification philosophique du crime contre l'humanité, c'est la défection de l'imagination du semblable. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'identification, non pas l'identification psychologique, mais l'identification politique à un autre humain que moi, fait défection et justifie cet effondrement de la communauté politique et justifie les atrocités qui nous obligent dans la deuxième partie du XXe siècle à rechercher, ce travail que nous n'avons pas achevé d'ailleurs, à rechercher qu'est-ce qui constitue l'humanité qui est visée dans le crime contre l'humanité. Et on y voit cette idée de dignité qui est une autre formulation, c'est-à-dire parce que nous appartenons à cette même espèce dont l'immense majorité sont tous sont titulaires de droits, mais l'immense majorité sont capables de les exercer. Ce n'est pas parce que certains sont dans l'impossibilité de les exercer de facto ou politiquement, parce qu'on leur en contexte le statut d'humain, qu'ils ne sont pas dépositaires de cette dignité. Ça ne peut marcher qu'avec les hommes. Ça ne peut marcher qu'avec cette catégorie si particulière d'êtres qui sont capables de symboliser la différence des autres, par le langage, par le rire, par la délibération, par la culture.
Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense que les frontières de l'espèce humaine sont pas aussi nettes. Alors, effectivement, il y a le langage, mais nous avons des... Alors, je parle pas des arbres. Hein. Là, on est
les animaux.
Mais,
d'accord.
Mais avec les animaux, nous avons des communications avec les animaux. Nous avons des échanges. Qui sont pas verbaux.
Très asymétriques. Plus de communication de notre côté que du leur.
C'est pas sûr.
Ils répondent à des signaux. Nous, on communique avec eux, on projette. C'est complètement différent. On imagine. On parle à son chien pour lui confier ses misères ou à son chat. Mais lui ne nous raconte pas ses rêves.
Pensez à Derrida disant « ça me fait quoi d'être nu devant un chat ? Est-ce que ça me gêne ou est-ce que ça me gêne pas ?» Je veux dire, vous pouvez très bien expliquer qu'effectivement il y a un niveau de relation entre humains qu'il n'y a pas avec des non-humains, animaux, végétaux, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dresser autour de l'espèce humaine une barrière telle que il y a ce qui est à nous et ce qui n'est pas aux autres ? Alors là-dessus, j'aurais un argument pragmatique, oui, d'une certaine façon, qui est de dire, en fait, les frontières sont très franchissables, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'essayer sur les animaux ce qu'on va faire aux hommes. Et que si on était plus attentif à ce qu'on fait aux animaux, ou à la nature en général, on se protégerait peut-être mieux nous-mêmes.
Ben alors, très bien, Catherine Larrère, mais c'est moins une question de frontières qu'une question de centre qui structure toute l'univers juridique. Ce qui est important, c'est ce qui est référable à nous, ce qui nous impose des obligations à nous, qui sommes les seuls à pouvoir y répondre. Et donc, j'admets absolument la lutte contre la souffrance animale et comme étant une nouvelle frontière, le respect des arbres et de la nature en ce qu'elle participe d'un équilibre général dont nous sommes tributaires, tout ça. Mais pourquoi attribuer la qualité de sujet de droit qui nous introduit à ce moment-là dans un univers polycentrique? C'est ma difficulté avec d'ailleurs l'écologie, une certaine écologie. On va y revenir ensuite parce que j'aimerais avoir votre sentiment sur la deep ecology et les reproches qu'ont fait des Luc Ferry autrefois. Mais ce qui est gênant, c'est que je vois un passage, un saut qualitatif dans le raisonnement de Christopher Stone entre j'admets que le droit reconnaît qu'il y a différentes catégories humaines dans le, au sein d'une même cité politique, qu'il n'y a pas que les hommes blancs, il y a les femmes, il y a les noirs, les descendants d'esclaves, les indiens, les homosexuels, les handicapés, etc., etc. Ce qui introduit l'idée d'un pluralisme. Mais le pluralisme est une chose parce qu'il est toujours référé à la même, au même noyau de la cité. Autre chose, c'est le polycentrisme. Je vis avec des séquoias qui ont des droits, mon chat a des droits, mais c'est le fleuve...
Alors, est-ce que ça... L'argument de Marie-Angèle Hermite qui dit, mais on ne va pas donner les mêmes droits. Il n'est pas question de considérer tous ces êtres à qui on reconnaît des droits comme égaux et ayant les mêmes droits. On va pas, dit-elle, je me souviens plus exactement, oui, mais donner les mêmes droits à un champ de coquelicots et à une bande de chimpanzés.
Ben, si tout l'univers a des droits, si les coquelicots ont des droits, si les arbres ont des droits, si mon chat a des droits, finalement, est-ce qu'on ne risque pas d'affaiblir l'idée de droit que nous avons déjà beaucoup de mal à faire respecter parmi les vivants et les humains?
C'est un argument fréquent, je suis pas convaincu.
France Culture, matière à penser, qui reçoit ce soir Catherine Larère et qui a choisi de nous faire écouter Stella del Mattino, l'étoile du matin, Catherine Larère.
Voilà, de Einaudi, qui est un musicien italien que j'ai découvert à Turin grâce à une amie italienne, et c'est sa ville.
Ah ben.
Et donc elle m'avait offert ça, et depuis j'écoute le disque avec délice. Je trouve à la fois excellent et détendant, ce qui est très rare.
Et ce qui est important quand on arrive, comme ce soir, à la fin d'une journée. Alors, Catherine Larère, notre question, c'est de savoir si l'on peut attribuer le statut de sujet de droit à des arbres ou à des animaux. Alors, j'aurais un autre argument à faire valoir pour m'opposer, non pas à la protection, mais m'opposer à l'attribution de cette qualité. C'est l'argument de savoir, mais dans le fond, ce que l'on veut et ce que voulait Christopher Stone dans son combat tout à fait légitime, de mon point de vue, contre une entreprise qui veut détruire cette forêt primaire. D'ailleurs, je crois qu'ils sont splendides. En
plus, ils sont splendides, les séquoias.
Bon,
c'est des arbres immenses qui vivent très très longtemps, qui sont très très beaux.
Et dans le fond, justement, dans le fond, ces arbres n'ont qu'un seul droit, celui d'exister. Celui de perdurer, celui de persévérer dans leur être arbre.
Oui, why not?
Alors que Alors que les droits, justement, les droits, c'est toujours plus que le droit d'exister. Le droit, c'est des droits
d'exister particuliers. D'exister et de prospérer.
Oui, mais alors justement, un arbre, ça prospère, ça grandit, ça ne fait de mal à personne, ça fait de l'ombre parfois. Mais prenons l'exemple des fleuves. Et prenons l'exemple des fleuves, je m'adresse à des Parisiens qui ont connu ces dernières semaines les crues de la Seine.
Oui, est-ce qu'il faut... On en saurait plus si on était dans la Marne, mais bon.
Oui, encore plus. pour nos auditeurs qui habitent la Marne, ils sont particulièrement sensibles à cet argument.
On a de la sympathie pour eux.
Absolument. Est-ce qu'un fleuve a le droit de déborder?
Alors, oui. C'est là. Alors, là, j'ai été étonné en lisant l'article de Stone qui ne pose pas plus la question. C'est-à-dire, si les. Parce qu'il envisage la possibilité d'un fleuve. Si fleuve ou arbre ou bon. Fait des dégâts, est-ce qu'on peut pas lui objecter ça? Or, il écarte l'objection. Je pense au titre de toute façon, c'est des êtres sous tutelle. Ça sera jamais des êtres. Alors, on tomberait dans votre idée de protection.
C'est ça. Hein.
Pour Stone, ça sera toujours des êtres sous tutelle. Et donc, l'autorité qui tient la tutelle paiera les dommages et les intérêts. Donc, pour lui, c'est pas je dirais que l'argument, c'est plutôt qui va assurer la protection.
Mais ça, c'est un excellent argument, mais pas besoin de recourir au statut de sujet de droit. Parce que qui va payer les dommages et intérêts? On est dans la symbolisation. C'est-à-dire qu'on va avoir recours à l'argent, en l'occurrence, ou à l'idée de compensation, qui est une idée très intéressante dans le nouveau droit de l'écologie, qui naît. C'est-à-dire une substitution, d'équivalence. On est à chaque fois dans l'équivalence symbolique. Et donc, on est absolument dans le droit. Alors que, vis-à-vis d'un arbre, encore une fois, il a qu'un seul droit, c'est celui d'exister ou de qu'on ne lui coupe pas, qu'on ne l'émonde pas, comment dirais-je, de manière démesurée. Je suis très frappé, par exemple, de voir des arbres fruitiers, je ne sais pas si vous en avez vu, absolument torturés pour l'exploitation.
Ah oui, c'est sûr.
C'est-à-dire tordus dans tous les sens pour qu'ils donnent plus de pommes ou de poires. Bon. Mais il me semble que on n'a pas besoin d'avoir recours à ce sujet. Au contraire, il y a une dimension de dépolitisation dans le raisonnement de Christopher Stone, qui ne me surprend pas d'ailleurs venant des Américains, parce que
qui ont recours au droit et au tribunal pour faire chose qu'on pourrait faire politiquement.
Exactement,
c'est sûr.
Voilà, c'est ça. Et il me semble que c'est à la fois pour le plus grand bonheur de l'argumentation et de la pensée, et des juristes, c'est très bien. Oui. Mais dans le fond, politiquement, s'il y avait eu une action politique, ça aurait pu se régler politiquement.
Disons que c'est plus stable, parce que s'il y avait eu une action politique, il aurait fallu recommencer à nouveau la fois suivante et dans des conditions différentes. Là, il me semble que la reconnaissance d'un statut, la possibilité d'un statut juridique permet d'avoir une continuité, une sorte de contentieux. Et c'est d'ailleurs ce que Stone attend de son article, c'est qu'il rentre dans la doctrine.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on puisse y référer et que... Il contribue à changer le droit.
Ce qui a marché, en l'occurrence.
Ce qui a marché.
Il a stimulé le débat juridique. Mais alors, après, il y a un argument que vous soulevez, d'ailleurs, vous-même, dans votre préface, parce que je crois que c'est un argument de poids. C'est-à-dire, qui dit droit subjectif, en l'occurrence, ça serait les droits subjectifs des arbres, parce que ce sont des sujets de droit, s'ils seraient reconnus comme sujets de droit. Qui dit droit subjectif dit des droits qui se heurtent à d'autres. Il peut y avoir un conflit entre le fleuve et les arbres, par exemple.
Il peut y avoir un conflit entre le fleuve et les arbres, comme entre le fleuve et les riverains.
Exactement.
Mais c'est ça qui compte. Et ça, il le dit, Christopher Stone, et on le retrouve à d'autres moments. C'est justement de faire que ça soit un conflit entre des sujets de droit et pas simplement un calcul économique.
Oui, alors,
reconnaître,
tout à fait.
Reconnaître un droit aux arbres, c'est admettre que tout ne va pas se décider dans un calcul coût-avantage. C'est-à-dire que même si ça fait perdre de l'argent de ne pas faire la station de sport d'hiver... Si on donne raison aux arbres, on ne fera pas la station de sport d'hiver.
Alors ça, c'était une partie très intéressante.
Ça me paraît important.
Tout à fait, et très intéressante dans son raisonnement. Et il dit à un moment, c'est à la fin de son article, il dit, et on le voit d'ailleurs là aussi, très, très marqué par l'école d'analyse économique du droit, Law and Economics, où il dit, mais dans le fond, les droits sont créateurs de valeurs. Économique. Et c'est comme ça qu'ils sont de plus en plus considérés. Et lui résiste à la fois à une valeur d'utilité, en disant non, tout n'est pas référable à sa valeur d'utilité. Et on, si tout a une valeur, eh bien il y a une valeur à ne pas être coupé, etc. Bon, et je trouve ce raisonnement très intéressant, mais intéressant au point de vue, encore une fois, politique, pas au point de vue des catégories juridiques.
Parce que ça retombe, alors, catégorie juridique, catégorie morale aussi, oui, c'est à peu près l'équivalent de la valeur intrinsèque.
Tout, exactement, nous sommes d'accord.
C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement un rapport instrumental, les entités existent de par leur propre existence.
Et la nature n'est pas simplement une immense ensemble de ressources. Exactement. Et alors, il y a aussi cette difficulté qui va nous emmener plus sur une réflexion sur la deep ecology et sur le devenir du droit de la Terre. C'est, il y a un de ces arguments qui est assez malin, assez intelligent. Il dit oui, ce qui constitue un homme, un être humain, c'est son organisme. L'idée d'un organisme vivant, et donc avec des correspondances qui font qu'il est, il évolue, que c'est un sujet historique. Et alors il dit, bon, peut-être que les arbres ne sont pas un organisme au même titre que nous, mais ils appartiennent à la terre, et la terre en soi est un organisme. Mmh. Alors là, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il introduit une autre catégorie et nous oblige à penser à une autre catégorie qui n'est plus le démembrement de la nature en ses éléments, les fleuves, les arbres, les chats, les animaux, etc. Mais de réfléchir sur la Terre dans son ensemble. C'est-à-dire que, et alors c'est encore plus audacieux.
Mais on est avant Gaïa, là.
C'est ça.
On est avant l'hypothèse Gaïa quand il écrit ça, mais il y a de ça.
C'est ça. Alors l'hypothèse Gaïa pour nos auditeurs.
Alors l'hypothèse Gaïa est introduite par un technicien de la NASA, un ingénieur de la NASA, Lovelock, à partir des observations qu'il fait comparatives entre les différentes planètes. Et oui, il pense que la planète Terre réagit différemment des autres planètes, et donc il va faire l'hypothèse que la Terre saute. Régule à la différence des autres planètes, donc elle est comparable à un organisme. Alors c'est il va lui donner le nom de Gaïa, bon, parce que ça c'est une façon, quelqu'un lui suggère qu'il est une ancienne déesse de la Terre, des déesses de la Terre d'avant que les hommes prennent le pouvoir dans le panthéon grec. Et alors l'hypothèse va être d'abord très tourné en ridicule, on va se dire bon, c'est pas sérieux, c'est quoi de penser que la Terre est un organisme, etc. Elle est maintenant prise très au sérieux. Hein. Moi, j'ai participé il y a 2 ans à un colloque où il y avait des gens qui arrivaient de Cambridge, donc tout ce qui est plus sérieux.
Voilà. Mais alors, justement, Catherine Larrère, moi, je vois un très grand intérêt intellectuel, philosophique, mais aussi juridique, à l'idée d'un équilibre. C'est-à-dire que nous devons vivre dans un rapport équilibré avec la nature. Et je pense que d'ailleurs, cette idée d'équilibre, elle est aussi très puissante dans la compensation des droits ou la coordination des droits. Par exemple, c'est l'étude de proportionnalité, qui est un raisonnement qui s'installe de plus en plus parmi les juristes, et c'est une excellente chose. Donc, mais on peut penser l'équilibre de l'homme avec des entités qui ne sont pas humaines en termes d'équilibre.
Alors le problème, c'est que au niveau des sciences de la Terre, la notion d'équilibre est très en retrait. A été mise en cause déjà depuis un moment, au sens où on pense que au niveau écologique. Finalement, l'équilibre, c'est pas la règle. La règle, c'est la perturbation. Et l'équilibre, c'est un état.
Bien sûr.
De temps en temps.
Au niveau naturel.
Voilà. Et Gaïa elle-même, on dira qu'elle est métastable. C'est-à-dire que, elle tend à se réguler, à aller vers un équilibre, mais elle est aussi sujette à beaucoup de variations par rapport à l'équilibre. Donc ça donne à l'équilibre, une référence naturaliste, mais une construction idéale.
Mais justement, mais le droit est toujours, se construit toujours avec une, par référence, au moins une de ces références, est une sorte d'utopie. La vie sociale, elle est métastable. C'est-à-dire qu'elle est plus que métastable. Elle n'est pas stable du tout. Ouais. Et le puissant écrase le faible et l'infant, celui qui n'est pas sujet de droit, risque de disparaître. Et tout l'ordre politique et tout l'ordre juridique a pour but de construire cet équilibre ou de rendre cet équilibre un peu moins injuste. Alors là, en l'occurrence, ça renforce, me semble-t-il, mon argument, c'est-à-dire est-ce que l'objectif, plutôt que distribuer des droits généreusement et de manière qui peut être inconséquente, est-ce que c'est pas plutôt de renforcer l'objectif d'un équilibre que le droit et la politique recherchent, retrouvent dans ce monde métastable, un équilibre vivable.
Moi, on a besoin de chercher des formes d'équilibre. Bon, je pense qu'il faut pas parler d'harmonie parce que alors là, on met trop de finalité.
Oui, oui. Mais de cosmos.
De cosmos. Mais vous parliez de centre. Je pense que nous autres humains, nous avons un petit peu trop tendance à nous mettre au centre. C'est-à-dire, nous sommes. Je pense, par rapport à la vision moderne qui place l'homme en dehors de la nature, nous avons compris que nous en faisions partie. Et c'est ce que vous disiez. Quand vous disiez, attaquer les arbres, c'est finalement attaquer un ensemble dont nous faisons partie. Bon, nous en faisons partie. Ça, je crois qu'on a bien compris. Mais il faudrait pas se réimaginer un peu ce qui était la façon des Grecs, que comme disait Aristote, tout est fait pour nous. Tout n'est pas fait pour nous. Donc, si nous voulons, comment dire, tenir compte de la puissance énorme que nous avons, il ne faut pas nous mettre au centre. Parce qu'à ce moment-là, on va pas prendre en considération les autres. Donc je crois que si on veut atteindre une insertion, un état, je vous dis, d'équilibre ou de communauté avec le reste du vivant et de la Terre, il faut que nous ne considérions pas qu'il n'y a que nous.
Alors, voilà. Moi, je pense que nous aurions besoin d'un centre responsable et modéré et humaniste, mais un centre quand même, et je vais vous expliquer, je vais avancer un argument.
Je ne pense pas que ce soit anti-humaniste en disant ça, oui, Antoine Garapon.
Pas vraiment. Quand on donne des droits à des arbres, ouais, ça veut dire que ces droits sont rivaux avec le droit des humains, peuvent être en rivalité avec le droit des humains. Ça veut dire que on peut parfois, ou quoi, on doit pouvoir envisager qu'on va faire triompher le droit des arbres sur le droit des hommes. Et pourquoi pas, de manière, comment dirais-je, de manière même radicale, de préférer la vie de certains éléments de la nature sur la vie des hommes. Est-ce que là, on n'a pas atteint un point de rupture, Catherine Larère?
Alors, je crois que le problème, et effectivement, c'est une objection qui a souvent été faite à des positions juridiques comme celle de Christopher Stone ou aux théoriciens de la valeur intrinsèque, qu'on mettait en conflit l'homme et des non-humains, animaux ou plantes, et que donc il y avait un risque de sacrifice des humains.
De fait.
Bon, je crois que l'accusation, à mon avis, elle est complètement inversée. Enfin, on accuse les défenseurs de la nature de l'inverse de ce qu'ils font. Ils demandent pas qu'on sacrifie des humains. Ils demandent simplement qu'on ne donne pas toujours raison aux humains. Et donc, bon, c'est pourquoi. Alors, si vous en restez à un principe genre purement lexical, genre Rawls, effectivement, vous risquez d'arriver à ce genre de choses. Je crois qu'il faut avoir une vision plus complexe,
donc,
hiérarchique.
Donc téléologique, c'est-à-dire dans le fond, la finalité, c'est une finalité qui prône un humanisme modéré, plus que tolérant avec la nature, mais respectueux de la nature. Et dans l'idée de respect, il y a bien cette idée d'altérité. Donc là, on est d'accord.
Dans l'idée de respect, il y a cette idée d'altérité.
Voilà.
Tout à fait.
Alors que dans la reconnaissance de droit, c'est le cœur même de la reconnaissance de droit. C'est que on n'octroie pas des droits. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus moderne pour le coup. C'est-à-dire que on n'octroie pas des droits aux femmes. Prenons l'exemple des femmes avec cette cette présupposition implicite qu'on peut les retirer quand on veut. Et donc, on donne, quand on reconnaît le statut sujet 3.
De fait, aux États-Unis, il y a plein de gens qui sont pour qu'on retire le droit à l'avortement.
Oui, c'est tout à fait. Mais je ne suis, de ce côté-là, je ne suis pas du tout américain. Donc, effectivement, quand on donne un statut de sujet de droit, on fait rentrer un élément nouveau dans la délibération politique. Il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas, ou bien alors, le statut de sujet de droit est métaphorique, ou bien alors il est réel.
Je dis, c'est pour ça, à mon avis, alors, est-ce que cette grille est nécessairement finaliste? J'en suis pas sûre, mais il faut avoir une grille plus complexe. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Il y a comme des priorités. Si, prenons entre humains, à Noël, vous offrez plus de cadeaux aux voisins qu'à vos enfants, vous allez être considéré comme un mauvais père. Il y a une sorte d'ordre.
C'est ça.
Bon. Mais si, à Noël, imaginez qu'il y ait eu un tremblement de terre quelque part, et vous dites à vos enfants, mais écoutez, nous les parents, on vous fera pas de cadeaux cette année, parce qu'on va donner de l'argent aux enfants qui sont victimes du tremblement de terre. On va trouver normal, peut-être que les enfants seront déçus, mais on trouvera normal que les enfants lointains, parce que c'est une question très grave,
Et de solidarité humaine.
Donc, la question peut être aussi, est-ce que entre, je sais pas moi, un petit plaisir de promenade que j'ai quelque part où je risque de détruire des nids d'oiseaux, il vaut pas mieux que je renonce à la promenade et que ces oiseaux puissent vivre. Mais c'est pas, on va me tuer pour que les oiseaux puissent vivre. Vous voyez, c'est l'idée qu'il y a des hiérarchies.
Oui, mais dans la deep ecology, par exemple, on y vient
si
tardivement.
Si je peux me permettre, à mon avis, ça n'existe pas.
Bon,
mais
alors, dans une écologie radicale, mais c'est ce qu'on a lu sous la plume de certains, en disant une écologie radicale doit choisir dans des cas dramatiques, des cas extrêmes, comme celui que vous mentionnez, on doit choisir la nature plutôt que les hommes.
Oui, mais on cite toujours celui qui dit entre le dernier loup et le dernier homme, je choisis le loup. Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, il est là pour choisir, donc c'est pas le dernier homme. Hein? Bon, donc l'exemple tient pas. Et d'autre part, quand on en est là, c'est que vraiment ça va très 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 mal.
Le débat n'a plus lieu d'être. Oui, c'est ça. Bien, vous ne semblez pas tout à fait favorable à la deep ecology, mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a
c'est une formulation assez.
D'accord. Bon, est-ce qu'il y a une écologie radicale? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un principe anti-humaniste? Ça sera ma dernière question. Qu'il y a un principe anti-humaniste dans une certaine écologie?
Bien sûr, mais il y a toujours des fous quelque part.
Ah bon. Hein.
Mais pour moi, c'est pas représentatif de ce qu'on mêle sous le nom de deep ecology, et ça serait dommage de condamner tout pour ça.
Y compris Christopher Stone.
Surtout Christopher Stone.
Merci beaucoup, Catherine Larrère.
Merci.
Matière à penser, Catherine Larrère, Seham Boudata, Claire Levasseur. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Grappin.